Bonne cuisine, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire, nous sommes en cuisine et à table jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Bienvenue hein, si vous nous rejoignez, toujours avec la joyeuse amoureuse du vin, Ophélie Neyman, que vous pouvez lire dans Le Monde, et le très critique gastronomique du Figaro, Emmanuel Rubin. On se demande ce matin si le restaurant est devenu un luxe. On se pose la question après la sortie ce lundi du nouveau guide Michelin. On le sait, avec l'inflation, la hausse des matières premières, des coûts énergétiques, des charges, l'addition chez nos amis restaurateurs a pu augmenter ces derniers temps. C'est vrai que ça peut devenir un luxe hein, d'aller au restaurant.
Ah, c'est carrément, moi je pense qu'aujourd'hui c'est un luxe. En tout cas, c'est un coût et un sacré coût.
C'est ça, quand on en a économisé pour pouvoir aller au restaurant, c'est un signe.
Alors, pour beaucoup d'entre nous, aller au restaurant est devenu un luxe plus difficile à s'offrir qu'autrefois. Écoutez, jusqu'à midi moins 10, on va vous donner des conseils pour faire baisser la note, chers auditeurs. Notre journaliste, tiens, Alessandra Bischoff, elle vous a justement tendu le micro d'Europe 1 dans les rues de Paris pour savoir si vous aviez changé vos habitudes en matière de fréquentation des restaurants.
J'y vais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Avant, c'était 2-3 restaurants par mois. Là, franchement, ça fait un tous les deux mois.
J'allais déjà pas beaucoup au restaurant normalement avant toute l'inflation. Depuis, je fais encore plus attention au prix et aux sorties. Je préfère faire un bon resto de temps en temps. Avant l'inflation, j'avais tendance à y aller 2 à 3 fois par mois. Maintenant, ça va être une fois par mois, une fois tous les deux mois, vraiment.
Ça fait partie du budget qu'on se fixe. Mais je peux comprendre parce que justement, là, je reviens d'un restaurant et on se disait, waouh, les prix ont augmenté. Pour nous, c'est un plaisir d'y aller, de découvrir et d'avoir toujours cet accès aux cuisines traditionnelles. Nous, on est fans de resto.
Ben, on est fans de resto aussi à cette table, bien entendu. Mais c'est vrai que malheureusement, ça fait partie des premiers arbitrages que l'on tranche quand on doit faire des choix dans le budget. Hein.
Ça ne date pas que de l'inflation, hein, ça date aussi du Covid.
Le Covid a changé les habitudes.
Exactement. Hein. Ouais, on s'est mis à télétravailler, à manger chez soi, à se faire livrer. Mais ça s'est encore accentué récemment. Il y a une étude Gira Conseil qui le montre. Hein. La moitié des personnes interrogées ont dit qu'ils avaient réduit leur budget restaurant. Et parmi ceux-là, plus des deux tiers, je crois, 70%, ont rogné sur les sorties plaisir du soir, du week-end. Donc oui, on dépense beaucoup moins et ça se ressent dans les restaurants. En moyenne, moins 20 à moins 30% de fréquentation.
Donc, une vraie baisse de la fréquentation.
Oh, oui.
Emmanuel, vous qui, je le disais, passez votre temps au restaurant, c'est votre métier. Vous écrivez pour Le Figaro et vous testez des tables pour nous aussi. Les salles de restaurant sont moins remplies, vous diriez ?
Ah, totalement. Je n'ai jamais vu ça. J'aime à dire souvent, vous savez qu'un critique, c'est un peu un sociologue de terrain.
Absolument.
Moi, ça fait 33 ans, quasiment jour pour jour, que je suis critique au Figaro. À faire 5 à 6 restaurants par semaine, je n'ai jamais vu une casse pareille. Non seulement, on ne le dit pas assez, mais la masse de restaurants qui ont fermé ou qui vont fermer et qui ne sont pas remplacés pour la première fois. Ensuite, aujourd'hui, là où je pouvais parfois avoir du mal à réserver parce qu'il y avait 2-3 semaines d'attente sur des semi-gastronomiques ou des gastronomiques, c'est fini. Et puis pour tout le reste, les restaurants sont vides. Et d'ailleurs, ils sont tellement vides que les restaurants sont en train de s'adapter. Et aujourd'hui, ça joue sur les jours d'ouverture,
oui,
et les horaires.
Mais on en voit de plus en plus qui sont fermés du lundi au mercredi. Hein.
Fermés le week-end, du lundi au mercredi, quasiment
aussi,
tous au déjeuner.
C'est dingue. Hein.
Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle sociologie du restaurant et ça c'est parce que le public n'y est plus.
Bah tiens, justement, pour ceux qui continuent de s'attabler, Emmanuel, à combien s'élève, vous diriez, désormais l'addition en fin de repas? Est-ce qu'on a une moyenne de
alors
ça?
Alors oui, Gira Conseil, qui est vraiment un cabinet d'études très pointu en ce qui concerne les choses de la restauration, évalue le ticket moyen après étude au restaurant. Alors qu'on aille de la pizza grill jusqu'au traditionnel, au gastronomique, c'est un ticket moyen, donc toujours confondu, à 31,69 €. Et ça tombe plutôt pas mal parce que c'est ce que la plupart des consommateurs sont aujourd'hui prêts à dépenser lorsqu'ils vont au restaurant, la trentaine d'euros. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que les consommateurs, c'est-à-dire les clients ou potentiels clients, aujourd'hui constatent véritablement eux-mêmes une hausse des prix. Pour 81% d'entre eux, ils disent que les prix ont augmenté. Et c'est vrai que dans le même temps, ils estiment aussi que dans l'assiette, eh bien, ça se réduit. Les ingrédients, les portions.
Oui, c'est vrai.
Pour 30%, ils disent que ça se baisse dans l'assiette. Par contre, ça augmente dans l'addition. Comment voulez-vous que ces gens-là aillent encore au restaurant?
Et puis, on fait l'impasse sur les desserts, on fait l'impasse sur les boissons, on ne prend plus de vin au restaurant. Donc, on essaye de faire baisser la facture comme on peut. Et à la fin, on a mangé moins.
Dans ce contexte, justement, certains chefs cherchent des solutions. Et je pense à la chef Georgiana View, qu'on aime beaucoup, qui est venue nous voir déjà ici à cette table. Elle a une idée originale pour faire revenir les clients dans son restaurant. C'est le restaurant rouge au sein du Margaret Hotel Schuller à Nîmes. Elle a une étoile au Michelin. Bien, pendant un mois, chez Georgiana, c'est très simple. Elle fait moitié prix sur ses menus, le mercredi et le jeudi au dîner jusqu'au 11 avril. Le menu, par exemple, est à 110 euros, ce qui est un gros, gros budget. Eh bien, elle le fait moitié prix, 55 euros. Donc, ça permet aussi à certaines personnes de redécouvrir le restaurant avec des tables étoilées et de vivre une vraie expérience, parce que là, on est dans de la haute gastronomie. Hein.
Et d'abord, bravo pour l'initiative. Et cette initiative, par elle-même, prouve qu'il y a un problème. Si une chef étoilée Michelin à Nîmes est obligée aujourd'hui d'en arriver là, c'est bien qu'il y a un problème.
Alors, à l'heure du repas et au moment de choisir son restaurant aussi, il faut qu'on constate qu'il y a deux mondes qui s'opposent, Emmanuel. Hein, on parle beaucoup des restaurants de chaîne de temps en temps ici, et puis de nos bistrots, de nos restaurants de quartier aussi. Ce sont deux mondes différents.
Alors, deux mondes, j'en mettrais même trois, moi.
Ouais.
Vous avez raison, les restaurants de chaîne. Ensuite, les restaurants indépendants, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas justement à ces chaînes. Et puis une troisième, qui est le restaurant artisanal. Parce que le restaurant indépendant, il n'est pas forcément vertueux.
Qu'est-ce que vous appelez des restaurants indépendants alors ?
Je vais vous prendre un exemple. Prenons les chaînes très connues, Hippopotamus,
La Boucherie,
Chez Régent.
Buffalo Grill.
Ça, ce sont des chaînes avec des commandes, voire des cuisines parfois centralisées, en tout cas des commandes verticales. Ça, c'est le restaurant de chaîne, même décor, même marketing, même puissance. Et puis, après, le restaurant indépendant, mais qui, lui, ne fait pas forcément quelque chose de très bon et de très bien, qui va se fournir dans
chez
le
métro.
Bas de gamme chez Métro, bien, c'est la brasserie parisienne, le café-bar de quartier. Et c'est le mauvais faux restaurant des centres-villes. Puis, il y a le restaurateur artisanal qui, lui, est non seulement indépendant, mais va travailler fait maison, à une plus-value de cuisine.
Avec des producteurs locaux.
Donc pour moi, il y a trois mondes.
Vous avez raison.
Et attention, parce que sous couleur de restaurant indépendant, on vous sert, comme disait l'autre, beaucoup de merde.
Ben voilà, au moins, c'est dit.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Elle est là, la table. On a plein de belles surprises pour vous, chers auditeurs. Déjà, Elena Noguera, la chanteuse, comédienne et bonne vivante, nous rejoint dans un instant. Elle fait de très belles lectures de Frida Kahlo actuellement au Théâtre de la Scala à Paris. Elle viendra nous parler de ses goûts culinaires. Et puis, nous ferons un tour de magie avec vous, Ophélie Neyman, tout à l'heure en ce qui concerne le vin.
Tout à fait.
On ne peut pas tout dire, mais c'est quelque chose de complètement bluffant. On parlera de la course des garçons de café avec vous, Emmanuel Rubin. Mais en attendant, chose promise, chose due, nos astuces, nos trucs, nos conseils pour vous, chers auditeurs d'Europe 1, pour vous permettre de continuer d'aller au restaurant sans casser la tirelire. Alors Emmanuel, vous qui êtes un professionnel de la profession, comme disait Godard, on vous écoute.
Ah, il y a beaucoup de techniques, oui. La première est vraie, il faut jouer avec son temps et effectivement, vous savez, les réservations via les sites internet ou via des applications. Là, c'est vrai que souvent, vous pouvez profiter de réductions. Ensuite, lorsque vous allez au restaurant, essayez de plus en plus, je sais que c'est pas facile, si on y va au déjeuner et si on a encore plus le temps en semaine, alors là, vous allez pouvoir généralement profiter de ce qu'on appelle les menus d'appel, qui ne sont pas du tout honteux, mais où le chef va faire un effort sur les prix. Ensuite, il y a quand même une chaîne dont on aime à parler ici et qui existe et qui revient de plus en plus, ce qui est là encore symptomatique justement d'un problème du restaurant et du prix au restaurant, ce sont les routiers.
On va faire une émission spéciale routier bientôt parce qu'il y a des découvertes incroyables.
Alors, il y en a plus beaucoup, de moins en moins,
mais il y en a quand même qui résistent.
Et puis, en tout cas, l'association et le guide qui va avec, hein, sur internet ou papier,
le relais routier,
exactement, est en train de remonter en puissance. Et là, eh bien, vous êtes resté dans ce qu'on appelait l'auberge, en fait, du bord de route.
Exactement.
Avec ce qui souvent existait aussi, c'était ce qu'on appelait le menu ouvrier. Mais ce menu ouvrier qui était partagé aussi bien sur la route des vacances par le bourgeois que par le populo, et puis le reste de l'année. Et là, on a souvent une cuisine maison, une cuisine familiale, une cuisine bourgeoise, une quinzaine d'euros. C'est vraiment une chaîne. On parlait beaucoup de Michelin, on parle beaucoup du fooding. Eh bien, on va peut-être militer en ce moment pour une chaîne comme les restos routiers qui, en plus, nous permettent de sauver un peu le paysage gourmand et gastronomique du restaurant de province et de campagne.
Et on n'est pas obligé d'avoir un 38 tonnes pour y aller. Vous n'avez plus votre Smirmorgue, vous, par exemple.
Exactement,
vous
ça fait longtemps que mon
Vous allez en voiture électrique, maintenant.
Exactement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, là aussi, c'est que, justement, ces routiers, pour avoir le droit d'être un resto routier, ils devaient avoir un grand espace de parking. Donc, en plus, tu peux garer ta voiture facilement.
Magnifique. Et une dernière astuce, je crois, c'est les écoles hôtelières aussi.
Plus de 100 lycées hôteliers en France, et à chaque fois, pour la plupart, un restaurant d'application. Et un restaurant d'application, alors vous allez sur les sites des écoles, qui est ouvert pas forcément tous les déjeuners, tous les dîners, mais alors là, les prix défient toute concurrence. Et la différence, comme vous assistez à des jeunes qui apprennent leur métier, ils sont cornaqués par leurs professeurs, mais ils ont une exigence de résultat dans le service, dans l'ambiance et puis dans la cuisine. Donc on a souvent des beaux produits, une cuisine très traditionnelle avec beaucoup de sauces, des produits et des plats qu'on ne voit plus, et puis un service, croyez-moi, il y a quelques Michelin qui auraient du mal à suivre.
C'était les astuces d'Emmanuel Rubin que vous pouvez retrouver en vous abonnant et bien entendu à la newsletter à table. Ça se passe sur europe1.fr et c'est gratis. On ne dit plus assez ce mot, gratis. Et vous Ophélie, pour le vin, quels sont vos trucs pour faire baisser le montant de la addition, alors.
C'est compliqué parce que le vin, c'est là-dessus que la plupart des restaurants font leur marge.
Hein.
Je rappelle que généralement, entre le prix auquel ils l'achètent, alors ils ont des tarifs moins chers que nous, hein, mais, et le prix auquel ils le proposent sur la carte, on est généralement sur une bascule de x3. Alors quand vous trouvez des restaurants qui font une marge x2, x2,5, vous êtes très content.
Faut y aller, oui.
Quand vous êtes à Paris, il est pas rare que je trouve du x6, voire x8 pour certains établissements qui misent tellement sur l'image qu'ils vont se refaire la cerise sur le vin. Donc là, c'est catastrophique. Le problème, alors il y a des applis qui existent effectivement pour comparer. Vous rentrez de toute façon le nom du vin sur Internet et très vite sur Google, vous aurez les prix
c'est
de
vrai,
la bouteille.
Je ça vois vous permet plein de gens le faire au restaurant. Ça
le souci, c'est qu'une fois que vous êtes dans le restaurant, vous n'allez pas partir du restaurant parce que vous ne trouvez
pas
votre...
Tu peux le faire un peu avant et surtout tant mieux parce que ça va démasquer aussi les restaurants.
Oui, alors il y a aussi évidemment la technique du vin au verre. Le vin au verre, c'est très pratique quand on n'a pas envie de beaucoup boire, mais il faut savoir que
moi,
là aussi, la marge est terrible.
Je sais, oui.
Donc,
elle
si
est pire.
Vous êtes six,
je sais que ça, c'est le prix de la
bouteille. Si vous êtes 6, si vous êtes 4 et que vous avez prévu de boire plus d'un verre de vin, si vous êtes 6 et que vous ne voulez boire qu'un verre, prenez une bouteille, ça vous coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et puis, on joue évidemment sur les noms, on évite les étiquettes trop connues et surtout les appellations très connues. On ne prend jamais le vin le moins cher d'une appellation connue. On prend à l'inverse le vin le plus cher de l'appellation la plus modeste, voire IGP, indication géographique protégée, voire même vin de France. Si vous avez un vin de France qui est proposé au même prix qu'un Bourgogne ou un Médoc, vous pouvez être sûr que vous êtes dans l'excellence du vigneron. Et donc, il vaut mieux effectivement viser ça.
Eh ben merci Ophélie Neyman, qu'on peut lire également dans Le Monde. Alors, on le disait, les coûts augmentent aussi pour les restaurateurs. Ils font face à une baisse de la fréquentation de leurs établissements. Alors, pour s'y retrouver, certains revoient leur menu sans augmenter leur prix. C'est le cas de Baptiste Renoir, chef une étoile du restaurant Ocre à Rueil-Malmaison, en région parisienne, au micro européen de Marion Sauveur. On l'écoute.
En 2023, on a fait moins 20% de fréquentation. Cependant, on fait quand même le même chiffre d'affaires, donc on s'en sort pas mal. Il y a une vraie réflexion à faire et nous, cette réflexion, on la pousse en essayant d'autoproduire pas mal de choses. On fait des fermentations, on évite le gaspillage, on a arrêté les selles d'agneau, les filets de bœuf et tout, et on fait de la langue et de la tête de veau. Donc on essaye de réduire le coût matière tout en proposant toujours la même découverte et même une meilleure découverte puisque finalement, on propose des choses qui sont différentes.
Eh bien, c'est ce qu'on cherche aussi en allant au restaurant. Merci Baptiste Renoir. Une étoile au restaurant Ocre à Rueil-Malmaison. Et c'est vrai que c'est ce qu'on attend de la part d'un restaurateur aussi, c'est de faire des découvertes et qui nous embarque dans son univers et dans sa cuisine avec des produits vers lesquels on n'irait pas forcément.
Exactement. Et puis je crois qu'il y a eu une espèce de folie, de passion retrouvée tant mieux de la gastronomie et des chefs ces dernières années. À partir d'ailleurs l'arrivée un peu de Top Chef, ils ont tous pris un melon énorme. Et tous veulent travailler absolument les beaux produits.
Ah, mais
les produits
des produits nobles.
C'était véritablement la vérité des très grands restaurants.
Il y avait du turbo partout.
Voilà, mais dans les très grands restaurants, quand tu vas casser la tirelire pour un 2, un 3 étoiles, une table de palace, tu attends des produits nobles. Dans le restaurant de l'auberge de campagne, dans le bistrot parisien, dans le bistrot de la ville, on attend des produits plus simples.
Eh bien exactement, on n'arrête pas de le dire à cette table. Merci Ophélie, merci Emmanuel. C'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine. Alors écoutez bien, on vous offre aujourd'hui un tire-bouchon électronique rechargeable, intelligent, 4 en 1 de la marque Climadif, marque reconnue, hein, vous le savez, pour la qualité de ses caves à vin. Avec ce tire-bouchon, vous pouvez retirer sans effort tout type de bouchon, servir avec le bec verseur aérateur et conserver votre bouteille en utilisant sa pompe à vide d'air intégrée. Je vous dis, c'est un 4x4. Avec Climadif, les amateurs de grands vins pourront déguster pleinement leurs bouteilles et faire de belles dégustations. Et nous sommes avec Astrid au téléphone. Bonjour Astrid.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis enseignante.
Oh, vous enseignez quoi ?
Pour les primaires.
Ah, très beau métier, ah là là, les souvenirs des maîtresses, des institutrices, voilà, ça c'est très important. Vous appelez d'où ?
J'appelle de Bretagne, j'appelle de Vannes.
Alors qu'est-ce qu'on mange chez vous ce midi dans le Morbihan ?
Eh ben, retour de marché et j'ai pris des Saint-Jacques.
Voilà. Une valeur
très
sûre.
Simplement.
Voilà. Et juste snacker aller-retour à la poêle ?
Avec un petit peu de crème et du riz, et c'est très bien.
Eh ben voilà, et là on est heureux. Écoutons le bruit de cuisine, chère Astrid. C'est un bruit particulier. Pour gagner un tire-bouchon révolutionnaire, je peux vous le dire.
Alors, je pensais à un bruit de batteur électrique, à de l'huile versée sur un batteur pour faire une mayonnaise,
ah là là,
par exemple.
C'est terrible parce qu'on n'est pas loin de ça, mais c'est beaucoup plus précis que ça. Et j'ai parlé de cet objet sans le savoir la semaine dernière, pour tout vous dire. Ça avait un rapport avec le thé. Je ne peux pas vous offrir le cadeau, malheureusement, Astrid, mais je vous envoie un an d'abonnement à ma revue Les Petits Plats, et avec plein de belles recettes pour Pâques, justement. Vous verrez, il y a des recettes autour des œufs, autour de l'agneau et autour des premières asperges. Je vous envoie un abonnement d'un an pour vous remercier de votre fidélité, chère Astrid.
Ben, c'est super. Merci beaucoup.
Europe 1, la table des bons vivants.